L'ami, aujourd'hui, nous sommes le 18 octobre, nous fêtons Saint-Paul de la Croix. Paul-François d'Anéi naquit le 3 janvier 1694 à Ovada, dans le diocèse d'Aki, en Ligurie, dans la République de Gênes. Il était le fils de Lucchino d'Anéi et d'Anna Maria Massari, commerçants à Castellezzo. Lucchino d'Anéi était issu d'une famille noble. Paul-François était l'aîné des 16 enfants qu'Anna Maria mettra au monde, dont 6 seulement survivront après l'enfance. C'est pour éviter la guerre qui désolait la Lombardie que le couple d'Anéi se retira à Ovada dans l'espoir d'y mener une vie plus tranquille, et c'est là que Paul-François vit le jour. Désormais obligé de vivre dans une région qui n'était pas la sienne, la famille connut une pauvreté éprouvante, mais la vie chrétienne fut toujours irréprochable. On priait chaque jour, en famille, la Vierge Marie, la Reine du Ciel. En 1695, naquit le second fils, Jean-Baptiste d'Anéi, qui fut, durant toute sa vie, le compagnon fidèle de Paul-François. Cofondateur de la Congrégation de la Passion de Jésus-Christ, les passionnistes, on peut affirmer que Jean-Baptiste vécut la même sainteté que son frère aîné. Il convient d'ajouter que Paul-François et son frère Jean-Baptiste, encore jeunes enfants, aimaient construire de petits autels et se prosterner devant une petite statuette de l'enfant Jésus. En 1709, Lucchino d'Anéi retourna dans son pays natal Castellazzo, où il établit son commerce et sa famille. Doué d'une intelligence remarquable, Paul fit quelques études à Cremolino sous la conduite d'un vénérable prêtre. Très jeune encore, Paul-François d'Anéi commença à mener une vie austère, orientée vers la prière et l'oraison, et il entraînait son frère Jean-Baptiste à le suivre dans sa vie déjà pénitente. Durant l'été 1713, Paul-François reçut une grande illumination spirituelle et décida de se vouer totalement à Dieu. Il choisit comme directeur de son âme le curé de la paroisse, lequel l'invita plus tard à s'adresser au père Colomban de Gênes, prêtre capucin. À cette époque, la République de Venise levait une armée pour combattre les Turcs. Paul-François s'enrôla, mais le Seigneur lui fit rapidement comprendre qu'il le voulait ailleurs. Il quitta l'armée, retourna chez lui et reprit sa vie de sacrifice, fortifié par l'usage fréquent des sacrements. Plus tard, il avouera à un confesseur « Dans ces premières années, le Seigneur m'avait donné fin de 2 choses, de la Sainte Communion et des souffrances. » Dieu, qui préparait Paul-François à une tâche particulièrement difficile, l'avait doté d'une grande intelligence, et à plusieurs reprises, il lui fit connaître à quel genre de vie il le destinait. Paul-François raconte « Moi, Paul-François, pauvre et indigne pécheur et le dernier des serviteurs des pauvres de Jésus-Christ, par la rivière de Gênes, je vis une petite église située sur une montagne au-dessus de Sestri et appelée la Sainte Madone di Gazzo. Et en la voyant, j'éprouvais un désir sensible de me fixer dans cette solitude. Mais obligé par devoir de charité, d'assister mes parents, je ne pus jamais en venir à l'exécution. Ces inspirations, le bon Dieu me les donnait avec une grande consolation intérieure. Dans ce même temps, la pensée me vint de prendre pour vêtement une tunique noire de gros drap, de marcher nu-pied, de vivre dans plus grande pauvreté. Cette pensée ne me quitta plus. Mais comme je ne pouvais pas donner suite à cette pieuse inspiration, parce que j'étais nécessaire à ma famille, c'est-à-dire à mon père, à ma mère et à mes frères, je tenais toujours ma vocation secrète. Quelquefois, il me vint aussi la pensée de réunir des compagnons pour vivre en communauté et promouvoir la crainte de Dieu dans les âmes. Paul-François reçut à cette époque de nombreuses grâces mystiques dont nous ne pouvons pas parler ici. Signalons seulement que le Seigneur lui donna le désir de fonder une congrégation ayant pour titre « Les pauvres de Jésus ». Paul-François reçut aussi les éléments de ce qui serait la règle que ces pauvres de Jésus devraient observer. Cette règle ne serait que la loi de Dieu observée par la pratique des conseils évangéliques. Dieu, pour aider son dévoué serviteur, lui confia plusieurs charismes, dont celui de lire dans les consciences. le biographe de Paul François, Saint-Vincent-Marie Strambi, écrira plus tard. Paul découvrait le fond des cœurs. Souvent même, quand c'était des pêcheurs, il sentait une puanteur horrible mais surnaturelle qui était comme l'indice de la laideur et de la difformité des crimes dont ils étaient souillés. Éclairé par ce moyen sur les besoins des âmes et brillant du désir de les sauver, Paul manifestait, tantôt à celui-ci, tantôt à celui-là, les fautes qu'il avait commises, mais en secret et en tête à tête. « Mon frère, disait-il avec une pleine assurance, vous avez fait tel péché, allez vous confesser. » Puis il instruisait le coupable pour lui faciliter le moyen de faire une bonne confession et finalement il l'adressait à quelque bon confesseur dont les charitables avis puissent guérir les plaies de sa pauvre âme. Le 22 novembre 1720, Paul François fut revêtu de l'habit de pénitence des ermites par Monseigneur Gattinara, son évêque. Paul François commença alors une retraite de 40 jours dans une pièce située dans l'église de Saint-Charles à Castellazzo, Bormida. Le sage évêque lui ordonna de rapporter exactement ce que le Seigneur lui communiquerait pendant sa retraite. Paul François obéit. Pendant cette retraite, du 2 au 7 décembre 1720, il rédigea la règle des pauvres de Jésus. Après sa retraite et un voyage à Gênes, Paul François se retira dans un petit ermitage proche d'une église dédiée à Saint-Étienne. C'est là que le 28 octobre 1721, son frère Jean-Baptiste vint le rejoindre pour s'engager avec lui dans la vie consacrée. L'évêque du lieu ordonna à Paul François de commencer par enseigner le catéchisme aux enfants. Puis, il lui ordonna de monter en chaire pour faire le catéchisme aux adultes et prêcher sur la passion de Jésus-Christ. Paul François n'étant pas prêtre, son évêque fut obligé de lui accorder une dispense pour qu'un laïc, même consacré, puisse prêcher en chaire. Mais le bien réalisé fut considérable. Sans qu'il le susse, Paul et Jean-Baptiste étaient ainsi préparés par Dieu à ce que serait leur mission future. Après de longues et douloureuses péripéties, Paul François et son frère Jean-Baptiste furent ordonnés prêtres le 7 juin 1727 dans la basilique du Vatican par le pape Benoît XIII. Puis les deux frères s'installèrent sur le mont Argentario. Paul François s'appellera dorénavant Paul de la Croix. La même année 1727, Luchino Danei, le père de Paul François, victime d'un accident, décéda. Le choc fut terrible pour toute la famille. Paul François, en plus de ses activités, dut gérer les biens que sa famille possédait et conseiller ses frères et sœurs. Paul de la Croix raconta plus tard ce qu'avait été leur vie à son frère, Jean-Baptiste, et à lui, dans l'ermitage de Mont-Argentario, vie de retraite, de silence, de pénitence et de prière. Cependant, ils ne perdaient pas de vue qu'ils étaient appelés à aider le prochain dans la grande affaire du salut éternel. Aussi s'employaient-ils à enseigner et à expliquer la doctrine chrétienne. Ils descendaient à Pertecollé les jours de fête, et là ils apprenaient au peuple à connaître et à aimer Dieu et à observer sa très sainte loi. Nous sommes en mars 1728. Paul et Jean-Baptiste organisèrent une mission paroissiale à Talamone. Bientôt, de nombreuses personnes se rendirent à l'ermitage pour se confesser et recevoir des conseils spirituels. Vers 1730, leur vie de missionnaire commença, alliant vie contemplative liée à la passion et vie pénitente et apostolique. Puis naquit un projet de construction d'une retraite, maison de communauté des passionnistes, dédiée à la présentation de Marie au temple sur l'Argentario. Petit à petit, une communauté religieuse se constitua. En 1730, elle réunissait 7 personnes. Les frères vivaient dans un dépouillement total. Bientôt, pour répondre à l'apostolat qui leur sera demandé, ils parcourront pieds nus des chemins escarpés bordés d'arbustes épineux. Le 14 septembre 1737, la première retraite ou monastère des passionnistes, la retraite d'Argentario de la congrégation des passionnistes, était inaugurée. Le 15 mai 1741, un rescrit du pape Benoît XIV approuvait la règle de la nouvelle congrégation, mais pas encore la nouvelle congrégation elle-même. En juin 1741, jour de la fête du Corpus Domini, l'autorisation de garder les saintes espèces fut donnée. Le 11 juin eut lieu, sur l'Argentario, la première profession religieuse de l'histoire passionniste. Les 6 premiers passionnistes émirent les vœux de pauvreté, chasteté et obéissance, auxquels s'ajoutait un 4e vœu, celui d'annoncer le mystère de la Passion. De nouveaux compagnons arrivèrent. La sainteté fleurissait sur le mont Argentario. De nouvelles fondations furent ouvertes et Paul de la Croix s'installa à Vetralla. En mars 1746, un bref pontifical approuvait les règles, avec cependant quelques adoucissements jugés indispensables par l'Église. Le 10 avril 1747, Paul de la Croix fut élu supérieur général et recteur de la retraite de la Présentation au Mont Argentario. Le nombre de candidats augmentant sans cesse, il faudra de nouveau songer à ouvrir des retraites. À la mort de Paul de la Croix, il y avait 12 retraites déjà établies. Mais les persécutions continuaient, car la nouvelle congrégation fut souvent persécutée. En 1748-1750, plusieurs ordres mendiants se coalisèrent contre la congrégation passionniste. Un procès fut ouvert à Rome. Les passionnistes eurent gain de cause en avril 1750. Paul de la Croix avait écrit « Le premier devoir du passionniste, c'est de devenir saint. » Et le moyen principal pour y parvenir est l'oraison qui permet de s'unir à Dieu. La passion doit être le charisme spécifique des passionnistes et la pauvreté effective un instrument de perfection. Mais la pauvreté des passionnistes ne doit pas être uniquement matérielle, elle doit être aussi une pauvreté intérieure, une connaissance de soi élevée jusqu'à la béatitude des pauvres de cœur. Il était pleinement exaucé. Une autre grande douleur vint frapper notre saint. Son frère et fidèle compagnon, le père Jean-Baptiste, exténué de travaux et de pénitences, tomba malade et rendit paisiblement son âme à Dieu le 30 août 1765. Il faut dire que de 1762 à 1765, une grande famine s'abattit sur l'Italie et dura 4 ans. Les passionnistes héroïques donnaient aux pauvres même le peu de nourriture qu'ils pouvaient avoir. Beaucoup tombèrent malades et le père Jean-Baptiste en mourut. Mais saint Paul de la Croix, qui se trouvait à la retraite de Vetralla, continuait ses tâches. Il faut ajouter qu'il fit de nombreux miracles pour que les siens ne mourussent pas de faim. Multiplication du blé au fond d'un sac, présentation d'un vieil homme se présentant à la porte de la retraite de Vetralla avec 2 mules, l'une chargée de pain et l'autre d'huile. Quand les mules furent déchargées, l'attelage disparut sans laisser de traces dans la neige. On pourrait multiplier les exemples. Enfin, le bref du 15 novembre 1769 et la bulle du 16 novembre 1769 confirmèrent les règles et approuvèrent l'Institut. Très affaibli, le père Paul poursuivait cependant son travail. Après une longue agonie, il expira le 18 octobre 1775. Paul de la Croix était âgé de 81 ans, 9 mois et 15 jours. Saint Vincent Marie Strambi, son biographe, écrivit « Son visage paraissait tout resplendissant et inspirait de la vénération à ceux qui le regardaient. Un saint prêtre, en lui baisant la main, eut la consolation de sentir un parfum très suave s'exhaler de ce corps virginal. » Paul de la Croix fut canonisé le 29 juin 1867 par le pape Pie IX. Sa fête est le 18 octobre.